Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez bien sûr les programmes du Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires. Il est 8h, monsieur, dame, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Les experts et les forces vives de la nation se penchent depuis hier mardi sur la question à Bamako. Si les autorités de la transition se disent prêtes à l'appliquer, la classe politique est divisée sur ce projet. Les membres du CNT s'imprègnent du fonctionnement des structures chargées de la lutte contre l'enrichissement illicite. Selon le président du Conseil national de transition, il s'agit de mener la réflexion sur le sujet et de prévoir des textes visant à le combattre. La préservation et la valorisation des manuscrits anciens étaient au centre d'une rencontre de réflexion organisée ce lundi par le ministère de la Culture. Les participants ont mis l'accent sur la politique nationale de sauvegarde et la numérisation de ces documents. À la présentation, Mariam Maïga, Nuhum Djiré assure la technique. Quel organe pour gérer les prochaines élections au Mali? Les acteurs réfléchissent sur la question depuis ce mardi à Bamako. Si les autorités de la transition ambitionnent de mettre en place un organe unique, la classe politique est divisée sur la question. Pour certains partis politiques, le temps imparti pour la transition ne permet pas de créer une telle structure, alors que d'autres formations politiques jugent nécessaire la création de cet organe pour espérer des élections crédibles et transparentes. Détail avec Moussa Malé-Sissoko.
Pour l'ex-majorité présidentielle Ensemble pour le Mali, EPM, il faut s'asseoir à ce projet de mise en place d'un organe unique de gestion des élections au regard du temps imparti pour la transition. Elle propose donc d'organiser les élections avec les structures existantes. Zoumananti Doumbia, membre de EPM.
Nous pensons très sincèrement que à l'état actuel, il est difficile, voire impossible en droit de mettre en place cet organe unique. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller aux élections avec l'existant pour nous permettre en tout cas de sortir de l'époque de la transition. Donc vous voyez un peu le contraste qui existe entre le fait de pouvoir mettre cet organe unique et de pouvoir organiser les élections à date.
Premier vice-président du parti Yelema, Boubacar Amadou Diko pense qu'un organe indépendant de gestion des élections sera capital pour la transparence des élections. Selon lui, cet organe pourrait être un moyen d'éviter les contestations post-électorales. Boubacar Amadou Diko, premier vice-président du parti Yelema.
La mise en place de l'organe de gestion, elle est faisable. Nous avons les compétences, nous avons les ressources, nous avons tout ce qu'il faut pour les mettre en place. On a failli. Vous savez, pourquoi on nous a mis ici dans la transition? Nous sommes dans la transition parce qu'ils ont failli et parce que les élections ont été bâclées. Donc, pour sortir de la transition par la bonne manière, nous devons organiser les élections de façon crédible et transparente par la mise en place de l'organe de gestion.
Les travaux qui se poursuivent jusqu'à ce mercredi devraient aboutir à un consensus sur l'organe ou les organes chargés d'organiser ces élections.
Un contrat du signé Moussa Malé Sissoko. Pendant ce temps, la plateforme Synergie 20D exige un chronogramme clair pour les élections à venir. Elle l'a fait savoir hier au cours d'une conférence tenue à Bamako. Selon les responsables de l'organisation, le chronogramme produit par le gouvernement de Mokhtar Wane est irréaliste au regard du temps imparti de la transition. Il demande aux autorités de se consacrer aux élections, notamment la présidentielle et les législatives. Docteur Ibrahima Sango, membre de la Synergie JVND au micro de Aïssata Diarra.
Le programme qui a été produit par le gouvernement dirigé par Mokhtar Wane prévoyait beaucoup d'élections. Ce programme prévoyait l'élection des conseils communaux, l'élection des conseils locaux, l'élection des conseils régionaux et prévoyait aussi le référendum, la présidentielle et puis les élections législatives. S'il y a 9 mois qui restent pour la transition, on doit se concentrer sur les élections nécessaires. On peut relire la loi électorale, on peut relire la loi organique des députés, on peut relire la charte des partis politiques et on doit programmer l'élection présidentielle et les élections législatives au mois de février-mars. Comme le gouvernement aujourd'hui est favorable à ce qu'il y ait un organe unique de gestion des élections, on peut relire tous les textes relatifs à l'organe unique de gestion au cours du mois de juillet. Et au mois d'août, on met en place l'organe unique de gestion des élections et qui va faire 6 mois pour s'implanter, pour mettre en place ce démembrement et pour s'organiser.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Parlons à présent de cette opération spéciale de Ravec qui se déroule dans le pays. Les travaux n'ont toujours pas démarré dans les cercles de Youarou, Koro, Bankass et Douanzan. C'est pour la coalition pour l'Observatoire citoyen des élections au Mali Kossem. Et ce non-démarrage est lié à l'insécurité et le non-acheminement des matériels. Les élus de ces zones de leur côté indiquent que la faute incombe au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les détails avec Sally Sissoko.
Selon Drissa Traoré, président de la coalition pour l'observation citoyenne des élections, ces retards acquis dans le démarrage des travaux s'expliquent par diverses raisons liées à la réalité des localités. Mais toutefois, il demande la prolongation des travaux pour des résultats satisfaisants.
À Douanzan, nous avons constaté l'indisponibilité de matériel requis pour ce travail d'enrôlement. Dans les autres localités, l'insécurité a également pas amené des interruptions ou parfois interrompre les opérations. Nous demandons à ce que ce délai soit prorogé pour permettre l'enrôlement de plus de personnes.
Quant aux élus locaux de Bankass, l'excuse de l'insécurité ne tient pas. Selon eux, l'opération peut se faire uniquement à Djéné. Alain Guindo, maire de Bankass.
L'opération habituelle de recensement, ça se fait tous les jours. Mais l'opération spéciale, ils n'ont plus que de faire désigner dans la région de Mont. On ne peut pas parler d'insécurité parce que l'administration est là, tous les services sont là. On peut bien faire le recensement.
Rappelons que cette opération a démarré le 15 mai dernier sur le territoire national et se poursuivra jusqu'au 30 juin 2021.
Autre titre de l'actualité du jour, un atelier de change d'information et de renforcement de capacité des membres du Conseil national de la transition en matière de lutte contre l'enrichissement illicite s'est tenu hier à Bamako. Selon le président de la commission de loi du Conseil national de la transition, l'objectif est de discuter avec certaines structures de contrôle, notamment l'OCLEI et le pôle économique, pour connaître leur mode de fonctionnement afin de mettre en place des textes plus adaptés dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Souleymane Dé, président de la commission des lois du CNT, est au micro de Aissata Diarra.
Cette lutte contre la corruption au Mali, aujourd'hui, c'est devenu un problème extrêmement majeur qui préoccupe tout le monde. On ne peut pas comprendre dans notre pays que autant d'instruments juridiques existent et qu'encore aujourd'hui, avec toutes les structures de contrôle qu'on a sous la main, on en a 9 quand même, et on a l'impression que ces structures marchent sur les pieds et qu'à l'arrivée, malheureusement, on a toujours pas le résultat que les Maliens attendent de cette lutte contre la corruption. Il faudra à un moment donné mettre tout le monde au même niveau d'information pour que quand viendra le moment de discussion de ces textes-là, qu'on ne puisse pas aller dans le sens de multiplier les textes pour encore zéro résultat. Avec cet atelier, au moins, on va atteindre l'objectif de mise au même niveau de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, de savoir déjà qu'est-ce que, par exemple, l'OCLEI mène comme mission, comment est-ce que le pôle économique fonctionne. Comme je vous ai dit, nous entendons parler de l'existence de beaucoup de structures où les Maliens lambda ne savent pas qui fait quoi, dans quel domaine. Donc les Maliens attendent énormément de réponses.
Cap à présent sur ce sujet qui traite de la sauvegarde des manuscrits. Une réflexion sur la préservation et la valorisation des manuscrits anciens était au centre d'un atelier en début de semaine. La rencontre a permis au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme de faire le point et de relever un certain nombre de menaces qui planent sur les manuscrits anciens. Les participants se sont aussi penchés sur des nouveaux mécanismes de préservation, notamment la politique nationale de sauvegarde et la numérisation de ces documents. Plus de détails dans ce reportage de Moudaï Soufi Maïga avec la voix de Mahaman Babakunta.
Pour les ministres de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Andogli Guindou, il est urgent d'adopter une politique nationale de sauvegarde des manuscrits anciens. Selon lui, au-delà du travail qui se fait sur le terrain, des menaces planent sur ces manuscrits.
Il existe plusieurs types de menaces sur ces manuscrits. D'abord les intempéries, mais également des facteurs anthropiques. Au-delà du travail qui est en train de se faire sur le terrain, et le but final de l'atelier, c'est d'arriver à l'implémentation d'une politique nationale de sauvegarde, de gestion, de protection, d'exploitation et de diffusion des manuscrits anciens.
Quant aux représentants de l'UNESCO au Mali, la préservation des manuscrits doit servir d'appui à la jeunesse malienne pour rétablir la paix et la sécurité à travers leur contenu sacré. Moukala Nguémo Edmond.
L'Union européenne n'apporte pas seulement l'aide financière, mais aussi technique. Combien de jeunes maliens prennent conscience que c'est leur patrimoine et que le
contenu de ces manuscrits détiennent des connaissances, des informations essentielles pour leur permettre vraiment de faire face aux défis aujourd'hui, sans compter que c'est un trésor qui pourra permettre donc aux jeunes d'avoir des opportunités donc de travail.
Notons que les catastrophes naturelles, l'insécurité sont entre autres menaces pour les manuscrits anciens selon les acteurs culturels.
Ouvrons à présent notre page dédiée à l'évolution de la maladie à coronavirus. Les autorités sanitaires ont enregistré hier mardi 29 juin 3 nouveaux cas de COVID-19, un patient guéri et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée se présente comme suit. 14 442 cas positifs, 525 décès et 10 039 guéris. Place à présent à la rubrique Actu Covid, portée essentiellement sur les questions d'auditeurs aux spécialistes de santé. Elle est présentée par Khalifa Guita.
Studio Tamani. Bonjour et soyez les bienvenus à votre rubrique consacrée à l'actualité du coronavirus Actu Covid. Comme tous les mercredis et jeudis, nous donnons la parole aux auditeurs qui expriment leurs préoccupations liées à la Covid. Des spécialistes de la santé répondent à ces questions.
Allô docteur, à propos du port des masques, est-ce que c'est vrai que nous réabsorbons les dioxydes de carbone que nous dégazons?
Il y a des normes de l'OMS, même la qualité même du masque là a été fabriquée selon ces normes. C'est-à-dire que quand vous prenez le masque, vous inspirez et vous expirez, c'est comme si vous tirez, il vous suit. Quand vous revenez, il gonfle encore. Donc ça veut dire qu'il filtre les matières virales. Donc le virus, il traverse, mais l'oxygène, il est plus léger encore. Il n'y a pas de souci pour ce problème d'oxygène.
Bonjour docteur, est-ce possible d'attraper le coronavirus dans les ateliers de couture?
S'il n'y a pas d'aération, l'atmosphère est confinée, les gens sont agglutinés les uns sur les autres, ils n'utilisent pas de masque, ils n'utilisent rien. S'il y a un porteur asymptomatique, il y a des risques de transmission.
Allô docteur, est-ce qu'une femme enceinte peut faire les vaccins?
La femme enceinte qui porte une grossesse au deuxième et au troisième trimestre, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, les femmes enceintes vaccinées, on s'est rendu compte que le vaccin protégeait en plus. Les enfants naissaient avec des anticorps protecteurs. Mais si par inadvertance, il arrive qu'une femme a été vaccinée au premier trimestre, il faut faire un suivi. Mais ce qui est surtout recommandé, c'est les femmes avec une grossesse au deuxième et troisième trimestre.
Le groupe sanguin a-t-il une influence sur les chances de contracter la COVID-19?
Pour aujourd'hui, l'unanimité n'est pas faite autour de la question pour dire que exactement le groupe sanguin influence le fait d'avoir le coronavirus. Les études qui ont été menées, c'est des études qui doivent être prolongées pour avoir une taille d'échantillon suffisante pour pouvoir donner des vrais résultats.
C'est la fin de ce numéro du jour. Merci de l'avoir écouté. Rappelons que le respect des mesures barrières est essentielle pour vous mettre à l'abri du coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Direction Kai, où une rencontre sur les risques et dangers liés à la migration irrégulière s'est tenue ce lundi. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des cadres et agents impliqués dans les questions d'immigration et de développement. Il a aussi été question de la promotion de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. La rencontre est financée par l'Union européenne en collaboration avec la coopération espagnole. Restons à Kai, où 33 agents de déclaration et officiers d'état civil du district sanitaire de Baflabé ont entamé lundi une session de formation. Cette session vise à renforcer les capacités des participants en matière de déclaration des naissances et de faciliter l'obtention du document à la population. Elle va durer 5 jours. Allons à Gao, où 4 éléments d'un groupe d'autodéfense ont été tués ce lundi dans une attaque par des hommes armés à moto vers Ntilit. Selon des sources locales, l'incident est survenu lorsque ces éléments du groupe d'autodéfense surveillaient des travailleurs d'une entreprise de la région. 2 véhicules ont été emportés par les assaillants, rapportent les mêmes sources. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Nuhum Djiré a assuré la technique. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Juliette Koulibaly. Terrorisme. conflits communautaires, crimes transfrontaliers. La région du Liptako-Gourma, j'y arrive, est confrontée à une insécurité persistante depuis des années. Comment rétablir la sécurité dans cette zone comprise entre les trois frontières du Mali, du Niger et du Burkina? Professeur Séni Moumini, spécialiste des questions sécuritaires, pense qu'il faut renforcer les investissements et la création de projets à impact rapide dans la région. Selon l'ancien chercheur, tout cela doit être soutenu par une action militaire intelligente. Professeur Séni Moumini répond aux questions de Intala Akbilal.
Aujourd'hui, les populations n'arrivent même pas à assurer leurs activités quotidiennes. Si on prend dans le cas du Niger actuellement ou du Burkina, de nombreuses populations sont chassées de leur village. Ça veut dire que c'est des populations qui ne vont pas faire de culture et que dans un an, nous serons encore dans une situation beaucoup plus difficile que cette année à la mesure où les gens n'arrivent pas à produire. Donc, c'est une situation qui est, à mon avis, dont la gravité est, à mon avis, sous-estimé par les différents acteurs, par les États, par la communauté internationale, parce que les pratiques aujourd'hui de violence qu'on observe dans cette zone-là peuvent être qualifiées de génocide. Partout où il y a eu des génocides, ça a commencé comme ça. Et si on ne réagit pas rapidement, on risque d'aboutir à des situations extrêmement graves et déplorables.
Oui, la précarité des populations, la pauvreté, l'absence de l'État, l'absence des forces armées de sécurité, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, faire aujourd'hui pour que ces populations contribuent à lutter contre le terrorisme et non à devenir un instrument de ces groupes djihadistes?
Mais c'est davantage d'État. Il faudrait que l'État s'investisse davantage. Mais comme on sait, nos États sont pauvres. Ça veut dire qu'ils doivent avoir davantage d'appui de la coopération internationale, de l'appui de la solidarité internationale pour pouvoir remplir ce rôle-là. Il faut aussi, bien sûr, qu'à l'interne, les populations puissent être davantage mobilisées. Et ça, c'est le rôle, un rôle important pour nos associations nationales, nos ONG, nos groupements nationaux qui doivent s'investir davantage dans la mobilisation des populations face à ces problèmes.
Aujourd'hui, est-ce que selon vous, l'action militaire n'a pas montré ses limites puisque les États ont favorisé l'action militaire au détriment du développement et du soutien de ces populations?
Non, l'action militaire a porté des fruits. Hein. C'est vrai qu'elle a toujours des limites dans la mesure où ça ne suffit pas puisque les justifications, les causes de fond de certains problèmes ne sont pas des problèmes de défense, ce sont des problèmes de développement. Et donc, même si la défense réalise des résultats, c'est insuffisant parce que les causes de fond ne sont pas traitées, il faut les traiter. Et ces causes de fond, ce sont les investissements dans le cadre du développement.